car les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crayons petits bourgeois de la bonne santé.
Et tu cherches un
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les autres du...
Non, non, non,
non, non, non.
Mais que diable est-il faire dans cette galère?
Ça fait raison, mais hâtez-vous!
Y avait-il quoi d'autre en promenade?
Cela est vrai, mais faites promptement, vous dites galère!
Ah, cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera racontée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour et bienvenue à votre numéro de Scène de vie, vie de scène du mois de juin 2024. Une émission qui prendra à nouveau le temps de vous parler de spectacles vivants. Cette émission vous est proposée en coproduction entre le Tangramme et Principe Actif. Pour accompagner cette émission aujourd'hui, c'est Caro et Nathalie qui seront au micro avec moi. Bonjour Caro, bonjour Nathalie.
Bonjour JC.
Bonjour JC.
Alors, au sommaire de cette émission riche, nous parlerons petites oreilles.
Et grande mirette, nous accueillons Magali Lecomte, médiatrice petite enfance dans le réseau des médiathèques Évreux, qui nous parlera de cette action, mais également de tout ce qui peut être proposé et fait au sein du réseau des médiathèques d'Évreux pour les 0-6 ans, mais aussi pour leurs parents.
Nous dirons l'amour.
Et oui, et nous ferons encore mieux, nous poserons la question de comment avouer son amour quand on ne sait pas le mot pour le dire, tout un programme.
Et c'est Nicolas Petitzoff que nous aurons à nos micros pour échanger sur cette thématique. Nous retrouverons un agenda non exhaustif de ce qui nous attend au mois de juin. Nous terminerons cette émission avec un extrait de film. Et à nouveau, nous laissons le suspense, parce que c'est bien mieux quand il y a du suspense. Mais nous commençons tout de suite cette émission avec une autre de nos traditions, le son d'ambiance.
Hop, regarde, j'ai deux cailloux. Il y aura vraiment un cailloux sur moi. Quelle main?
Bah, c'est logique que l'enfant est donc cette main.
Comment tu veux dire?
Non, aucun.
Donc, on en a 6 des petits enregistrements, c'est cool.
Vous avez la mort de mon ex.
La 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 la. Bonjour, nous sommes. Un groupe d'une école Victor Hugo, appelons, et nous allons vous poser des questions, quelques questions. Quelle est l'attention portez-vous à la qualité de vos vêtements?
Je porte très peu d'importance aux vêtements en général.
Alors JC, où as-tu laissé tes micros? Dans la ville, là, apparemment.
Alors dans la ville, oui, dans la ville de Conchanouche plus précisément, là nous étions avec les élèves du collège, enfin de l'école, pardon, Victor Hugo, c'était des CM1, CM2, la jeune fille que vous entendez à la fin, c'est une CM1, on a travaillé autour de la fast fashion, c'était à leur envie, rappelez-vous, il y a quelques semaines, ça faisait l'actualité avec les lois autour de des vêtements, comment on alimentait ou pas ces réseaux de fast fashion. C'est arrivé aux oreilles des enfants, ils se sont posés beaucoup de questions et on a décidé de partir en reportage. Alors ils ont rencontré ceux qui participent au recyclage des vêtements, ils ont rencontré Idévêt, ils ont rencontré le Secours Populaire, ils ont été rencontrés aussi ceux qui vendaient les vêtements, donc on a été dans une boutique de prêt-à-porter où ils ont échangé avec la vendeuse autour de où est-ce qu'elle s'approvisionnait, comment elle faisait, ce qui portait ses choix. Ils ont aussi été interrogés une couturière amateur qui fabrique des vêtements, donc ils ont échangé également avec elle. Ils sont posant en fait tout un tas de questions autour de comment s'habiller. Et puis une fois que tout ça c'était prêt, et puis que le soleil sortait enfin de cette épaisse couche nuageuse, ben ils se sont dit, si on allait dans la rue questionner des gens. Et ça, c'est l'exercice du micro-trottoir, qui est un exercice qu'on affectionne particulièrement, nous, à Principe Actif, parce que c'est se mettre en difficulté, aller rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. Et quand on est un enfant de 10-11 ans, c'est pas forcément simple d'interpeller des gens dans la rue, leur poser des questions sur leurs pratiques en termes de vêtements, ou peu importe d'ailleurs le sujet. Et donc c'est un exercice que nous aimons beaucoup, mettre les enfants dans la rue. Donc là, on avait une douzaine d'élèves qui sont partis avec l'animateur Chris, qui accompagne aussi ce projet-là, et moi-même. On est partis dans la rue questionner les habitants de Conches. Et puis, c'est très facile quand on est dans la salle en train de préparer ces questions. Ouais, moi je vais aller voir des grands, des petits, des machins, des parents et tout. Et puis quand on est dans la rue face aux gens, aux vrais gens, eh bien c'est pas si simple. Donc ils ont quand même réussi à faire je crois une vingtaine d'enregistrements. Bah oui, carrément, c'est plutôt pas mal. Et donc du coup, on a ce résultat qui va être diffusé, je pense, la semaine prochaine. En tout cas, vous retrouverez ça dans les podcasts si vous loupez le direct. Vous retrouverez ça en émission extérieure, et c'est l'école Victor Hugo de Conches-en-Ouche qui nous parlera de fast fashion. Voilà.
Ah bien, avec plaisir pour entendre leur production.
Voilà, c'est toujours intéressant d'entendre la vision des enfants sur un sujet.
Un sujet intéressant aussi d'actualité qu'ils ont choisi.
Carrément. Et finalement, leur reportage, quand on le met à côté de ce qu'on a entendu pendant des semaines dans nos médias mainstream, finalement, il n'y a pas à rougir du tout du travail qu'ils ont fait. Ils ont exploré des pistes qu'on n'avait pas forcément explorées dans les médias de manière générale, parce que c'est le point de vue des enfants. C'est toujours plutôt sympa. Voilà. Ça nous amène à la toute première pause musicale. C'est un choix qui émane de ton bureau, Caro. Alors, c'est pas toi directement, mais il émane de ton bureau.
Tout à fait. C'est le choix de Léa qui a fait l'émission du mois d'avril dernier et qui a préparé aussi cette émission avec nous, mais qui ne pouvait pas être là aujourd'hui.
D'accord. On en parle après du morceau ?
Tout à fait.
Ni de ta faute ni de la leur, tu voulais être l'un des leurs. Copieur, copieur, dealer, dealer, killer, killer, montre-leur, montre-leur que t'es brisé de champion vainqueur, baratineur, bluffeur, trimmer, tu n'es juste qu'un pipoteur, mytho, lâcheur, tricheur, stalker. Dix joueurs, copieur, copieur, bluffeur, bluffeur, sweeper, sweeper, influence. Ooh.
Alors, il s'agissait donc du groupe Ascendant Vierge avec le titre « Influenceur et sa pulse ».
Ah, décidément, je les rate, ces virgules à chaque fois.
Petite virgule.
Je la mets. C'est promis,
on
Nathalie.
On l'écoute. Merci, JC. Alors, eh bien, nous continuons dans notre émission Scène de vie, 8 scènes du mois de juin 2004 et nous accueillons Magali Lecomte qui est médiatrice de petite enfance dans le réseau des médiathèques d'Evreux. Merci Magali Lecomte d'être avec nous.
Avec plaisir. Bonjour à tous.
Nous, on avait envie de vous inviter à nos micros aujourd'hui pour échanger, parler autour des actions que mène la médiathèque d'Evreux, le réseau des médiathèques d'Evreux, pour les petits, les 0-6 ans.
6 ans.
Voilà. Et leur famille, du coup. Et notre œil et nos oreilles ont été attirés par une action que vous proposez qui s'intitule Petites oreilles et grandes mirettes.
C'est
voilà.
Ça.
Alors, des concerts proposés pour les tout-petits entre 0 et 6 ans, c'est quand même contexte particulier.
C'est ça, mais pertinent.
Mais bien sûr. Alors, j'avais envie de vous interroger. Bah justement, la médiathèque, c'est là où on va commencer peut-être à découvrir ses premiers livres, ses premiers albums. Et vous, en tant que... Je vais commencer par votre rôle. Peut-être de médiatrice. En quoi consiste vraiment votre rôle de médiatrice petite enfance envers ce public des 0-6 ans? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous proposez? Quelle est votre ligne de conduite pour vous à la médiathèque d'Evreux pour amener ces enfants à la découverte du livre, de l'album et après de la lecture?
Alors c'est vrai que c'est un public très particulier parce que c'est de la petite enfance, ils ont entre 0 et 6 ans, mais en fait ma ligne de conduite c'est la sensibilisation à la lecture. Auquel cas on peut y arriver sous plein de formes, c'est-à-dire que moi par exemple dans mes médiations, j'allie le livre, j'allie le chant, j'allie les comptines, j'allie les jeux de doigts. C'est hyper important parce que en fait, ça les sensibilise sur tous les sens. Et de ce fait, parfois, ils se perdent un peu parce que on peut pas se permettre avec des tout petits, par exemple, d'enchaîner des livres. C'est-à-dire qu'il faut forcément que ce soit ponctué par des moments où on les rattrape au vol. Alors la petite comptine, la chanson, c'est l'idéal pour les tenir en haleine.
Oui, c'est un environnement aussi ludique,
de
jeu, qui va pouvoir amener à un moment la lecture, le mot ou l'album.
C'est ça. Et puis, généralement, ils sont quand même accompagnés de leurs parents. Donc, les parents ont aussi un rôle à tenir vis-à-vis de ça. Et le fait d'être tous ensemble, en plus, à la médiathèque Roland Plaisance d'Evreux, on a quand même un contexte hyper agréable, auquel cas on les reçoit dans la bulle. Du moins un, et c'est vrai que c'est toute une atmosphère conviviale, cocooning, on est bien achalandé en matériel, on peut s'approcher de la démarche nozelaine, on a pas mal de sphères lumineuses, des colonnes à bulles de poissons, bref, en fait, ils sont bien, vraiment.
Sachant quand même que les tout-petits, c'est un public sans concession, en fait. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas.
C'est ça.
Et ils demandent forcément la complicité des parents.
Exactement.
En fait, il y a vraiment une complémentarité. C'est ça aussi, d'être médiatrice, c'est être en complémentarité des parents.
Exactement. C'est ça, justement, c'est faire le lien sur ce que l'on est capable d'apporter pour que le parent aussi se sente bien dans cette notion de sensibilisation à la lecture et apporte et contribue en fait à toutes ces petites choses qui vont amener justement à ce que ça marche.
L'objectif étant que ça se refasse à la maison sans vous.
Bah complètement.
C'est ça l'idée.
C'est le but. Mais vous savez qu'ils le font. Hein. Parce que souvent je fais des petites comptines et vraiment ils vont sur leur playlist et ils reviennent me voir. Oh Magali, on a appris la chanson du crapaud, on la connaît par cœur. Est-ce qu'on peut la refaire? Donc ça c'est.
Oui, puis il y a cette notion-là, ça veut dire qu'un petit quand il aime, il veut refaire aussi.
Exactement. C'est la notion de répétition chez eux, c'est hyper important.
Vous avez abordé un mot qu'on a laissé glisser comme ça, mais on va y revenir. Mm-hmm. C'était la méthode Nozelaine.
Nozelaine.
Alors là, faut nous en dire quelques mots.
En fait, la démarche Snow the Lane, alors déjà, je vais suivre une formation bientôt pour mettre ça en place correctement. Mais déjà, en termes de matériel à la médiathèque d'Evreux, on a vraiment ce qu'il faut. Et en fait, c'est tout un espace sensoriel qui est proposé aux petits, mais pas seulement qu'aux tout petits. Ça peut avoir un intérêt aussi sur nos seniors. Ça peut être très intéressant. En fait, on est dans un espace tamisé, on a des colonnes à bulles, on a des sphères lumineuses avec de la musique zen attitude. Et franchement, c'est propice à plein de choses. C'est propice à tenir un livre, comment tourner les pages. On est dans une ambiance où tout est serein, hors du temps, où le temps n'a pas d'effet.
Oui, là, on en vient à créer un environnement favorable, confortable
ça.
Pour pouvoir mettre en condition l'enfant, les parents dans votre proposition et dans un environnement, parce que on sait tout petit quand on arrive dans un grand bâtiment d'une médiathèque pour la première fois avec ses parents, c'est énorme, ces colonnes, ces grands escaliers, c'est pas rien, il y a vraiment
une incidence,
c'est pas rien, et ces espaces. De fait, vous travaillez vraiment à organiser les conditions favorables pour pouvoir que votre moment de lecture ou d'action s'appréhende au mieux.
C'est ça.
Ça s'adapte au mieux à l'enfant. Je voulais dire, les espaces Snow the Lane, c'est également pour vous quelque chose que vous voudriez mettre en place de façon pérenne, installée totalement dans au sein de la médiathèque, parce qu'on en fait c'est aussi un espace qui peut être, comme vous le disiez, bénéfique à plusieurs publics, seniors, mais
pas que les tout petits,
en situation de handicap. Mais ma question c'était, est-ce que ce serait un espace fixe qui resterait ou uniquement par rapport aux animations?
Non, en fait, si vous voulez, c'est justement le projet, parce que donc on a tout le matériel qu'il faut, mais ça demande quand même une formation. Auquel cas, je vais être formée au mois de novembre sur toute cette démarche-là avec le CNFPT. Donc en fait, ça va me permettre moi d'avoir les billes en main et de pouvoir proposer quelque chose de bien. Et auquel cas, oui, après le projet justement, c'est d'ouvrir à un plus large public, pas qu'aux tout petits, mais comme vous le disiez, aux personnes avec handicap, aux seniors, aux maisons de retraite, enfin tout plein de choses comme ça. Et vraiment, ça, ouais.
C'est un service en plus.
CNFPT, mais complètement. C'est le Centre National de la Fonction Publique Territoriale.
Exactement.
Oui, et moi j'avais une question toute pratique, c'est est-ce que quand on veut venir avec son petit à la médiathèque Roland Plaisance, il faut réserver ou est-ce qu'on peut venir n'importe quand?
Non, toutes nos médiations en fait sont sans réservation. Donc en fait on peut venir quand on veut, comme on veut. La seule chose c'est qu'on a des jauges à respecter. C'est la différence. Mais sinon, c'est ouvert tout public de 10h à 18h. Donc, quand il y a des médiations, tout est informé sur le portail de la médiathèque d'Evreux. Et vous avez aussi un programme papier qui informe de tout ce que l'on peut proposer. Et franchement, la proposition, elle est très riche pour tous les publics.
Alors justement, quand on parle de propositions, quelles ont été les dernières, quelles sont les suivantes, qu'on se rende un petit peu compte, parce que là on parle bien de médiation, mais concrètement, quand les enfants se retrouvent assis sur un coussin, il se passe, enfin sur un coussin j'imagine, hein.
Oui, c'est ça,
oui, c'est ça, sur un coussin, ça va.
Tout va bien.
Et donc, que se passe-t-il concrètement en fait? C'est des sessions longues, courtes, ouvertes, on rentre, on sort quand on veut, comment ça se passe en fait concrètement?
Alors moi par exemple, je m'occupe de la valise aux histoires qui se passe les trois premiers mercredis de chaque mois sur différentes médiathèques. Et donc, j'ai trois créneaux. Donc, en fait, je fais des créneaux d'une demi-heure parce qu'évidemment, pour les tout-petits, on peut pas se permettre de partir sur une heure de créneau. C'est bien trop long. Auquel cas, ce sont trois créneaux de 30 minutes. C'est bien pour ça qu'on a une jauge, mais on a la possibilité de venir à la deuxième ou à la troisième séance. Et en fait, comme je vous le disais, je les reçois, par exemple, pour Roland Plaisance dans la bulle. Donc, en fait, enfants, parents viennent, grands-parents aussi. Il y a des centres de loisirs, des crèches, enfin, tout le monde... ils sont tous les bienvenus. Et en fait, pendant cette demi-heure-là, justement, ils sont bien assis. Les parents sont là pour les garder avec eux. Après, moi, je mets toujours tout de suite à l'aise. C'est qu'un enfant, on peut pas lui demander de rester assis pendant une demi-heure. C'est pas possible. Donc, on est dans un espace clos, fermé. Auquel cas, si ça vadrouille partout, c'est pas grave. De toute façon, les oreilles sont là. À des moments, on peut les perdre, mais on les perd pas tant que ça parce que en fait, ils sont tout le temps captivés par des petits mots, comme je vous le disais tout à l'heure, des petites comptines, des petites chansons, des on est beaucoup sur la répétition, on est beaucoup sur le travail sur les émotions par exemple. Donc il suffit d'avoir les bons livres qui les intriguent, qui les captivent et tout de suite on en fait, ça se passe hyper bien.
Oui, c'est aussi dans vos missions de médiatrice que de pouvoir justement, moi j'allais sur l'album, repérer l'album qui pourrait vraiment être en relation avec votre projet de lecture publique ou d'atelier public avec ses enfants. Donc c'est aussi tout un repérage de l'existant.
C'est vraiment un travail en amont parce que on peut pas se permettre de se lancer comme ça dans une médiation sans avoir un travail en amont dans le sens où il y a justement la recherche, comme vous le dites, des livres, des auteurs, ce qui va être pertinent, cohérent. Donc, oui, ça demande du travail. Mais pour le coup, après, c'est tellement un réel bonheur de pouvoir profiter de tous ces moments-là avec ces petits qui sont contents, en fait, de ce qu'on leur propose. Et rien qu'un sourire, une émotion, un babillage. Moi, j'adore mon métier, vraiment.
Magali, j'ai une question très pratique. Votre valise à histoire, est-ce que c'est une vraie valise?
Mais complètement.
Parce que c'est important,
et c'est
ça.
C'est une valise qui date. C'est ma belle-mère qui me l'a donnée. Et elle a une cinquantaine d'années. Elle est hyper vieille. Elle est toute marron. Elle est usée. Mais franchement, elle a son effet. Parce que quand je cache des petites choses dedans et que je tape dessus et que je fais style de l'ouvrir, hop, on la referme et hop, on l'ouvre, on la referme. Alors là, c'est coup sûr assuré. Tout va bien.
Bah oui, c'est de la mise en scène aussi, histoires. Et c'est ça aussi, pour rentrer dans une histoire, il y a toutes les conditions autour. Mmh. On parlait de l'espace Snozelen. Mais c'est aussi tout ce qu'on va mettre autour pour que ça rentre. Les petites oreilles, du coup, mais, Nathalie,
parce que on y vient. Alors, cet atelier, ce concert, vraiment concert, donc. Qui dit concert dit musicien.
C'est ça.
Alors là, il y a la présence physique, humaine, de musiciens vivants. Parce que là, on est quand même sur une représentation vivante en direct.
Donc là, on est vraiment sur une belle proposition. En fait, c'est un vrai concert qui est proposé par les élèves du Conservatoire à rayonnement départemental d'Évreux. Donc, on sera sur une thématique sur les comptines d'hier et d'aujourd'hui et d'ici et d'ailleurs. Donc c'est vraiment toujours pareil, destiné à des enfants âgés de quelques mois à 6 ans et de leur famille bien évidemment. Donc vous aurez le privilège d'éveiller vos sens avec du violon, du violoncelle, de l'alto et de la contrebasse et d'entendre les plus petits interpréter des chants du monde comme par exemple une prière amérindienne, mais je n'en dirai pas plus parce que sinon je vais spoiler, je vais tout raconter, ça va pas.
Oui. Et donc ça veut dire c'est un, il y a en même temps du chant.
Oui.
Là, il n'y a pas de lecture, il n'y a pas d'album.
Alors si. Moi, j'interviens à hauteur de deux lectures. En fait, j'ai choisi deux livres qui se prêtent vraiment bien à la thématique. Et en fait, c'est vraiment deux livres tout en poésie, un peu pop-up. Mmh. Et en fait, j'ai la chance aussi d'être accompagnée par Mathilde Ric, qui est professeure de musique au CRD et sera avec moi avec un son de violon qui m'accompagne dans les lectures et vraiment c'est magique.
Donc c'est une collaboration, un partenariat que vous avez mis en place ensemble avec ces deux structures.
C'est ça, ça a été coordonné en amont. Donc moi j'ai fait la mise en œuvre du projet et donc projet entre les médiathèques d'Évreux et le Conservatoire à rayonnement départemental. Donc un vrai beau projet, un vrai beau partenariat. Franchement,
j'avais une question sur les élèves du conservatoire. C'est les élèves de débutants, enfin de quelle année, enfin c'est.
Alors il y a de tout.
C'était aussi mixité dans la construction du projet.
Ils ont entre 4 ans et 12 ans. Les musiciens sont un peu plus grands, quoique il y a quand même un enfant qui n'a que 5 ans.
Oui, donc
c'est jeune.
En fait, on est aussi sur les mêmes publics. Quasiment parfois les mêmes publics, élèves.
Oui, parce que les petits chanteurs, eux, sont vraiment petits. Hein. Mmh. Ça va de 4 à 6, 7 ans. Donc, ce qui est génial, c'est que, en fait, ce sont des petits qui proposent aux tout petit. Alors, je peux vous assurer, on a fait une répétition ce mercredi. Et en fait, on avait invité un centre de loisirs à venir dans la bulle Roland Plaisance d'Evreux. Et alors, l'émerveillement des deux côtés, à la fois des musiciens, des chanteurs qui chantaient ou qui faisaient de la musique pour ce centre de loisirs de tout petit. Bref, il y avait une vraie bulle de bonheur. Vraiment.
Quand on touche justement au chant des comptines, on est de l'ordre de ce qu'on appellerait des chants traditionnels. C'est aussi des choses... je sais pas comment le dire, c'est de la transmission, c'est dans la notion de transmission en fait, aussi bien les parents avec c'est les ça. Enfants qu'aussi avec d'autres enfants. Enfin, on est vraiment dans cette notion de transmission.
Ça permet d'enrichir en fait tout ce contexte et d'avoir une notion de partage. Mais je peux vous dire que même avec les prières amérindiennes qui ont été chantées par les petits chanteurs, les centres de loisirs ont chanté. Ils connaissaient les chansons, ils connaissaient les paroles. Donc ça, c'est magnifique.
C'est tout ce qu'on retrouve en fait dans notre enfance, sans l'avoir nommé, sans l'avoir souligné. Finalement, on a tous été bercés un petit peu à ça. Ces fameuses comptines, ces fameuses ritournelles, ces petites chansons qui finalement font
partie. C'est l'indémodable.
Voilà, c'est ce qui fait partie aussi, on va dire, d'une base culturelle même des tout petits, quoi.
Et d'une richesse énorme parce que pour le fait, c'est multiculturel en fait.
Oui, dans les publics aussi, chacun peut. Peut-être aussi
tout le monde s'y retrouve,
se reconnaître,
c'est ça.
Autres puissent leur parler.
Exactement.
Ce concert, on le retrouve dans une ambiance Snowzlen. Maintenant que je suis au point sur le terme, je vais le sortir en permanence. Non, mais du coup, l'ambiance du concert, parce qu'un concert, c'est une ambiance aussi. C'est quelque chose de particulier, un concert. On le voit bien, même nous, adultes, quand on va à un spectacle, il y a toute l'ambiance qui nous met dans l'ambiance de l'expérience qu'on va vivre même. C'est même pas de quoi on va assister, c'est ce qu'on va vivre. Il y a une attention aussi pour les plus jeunes sur une ambiance de concert.
Mais évidemment, justement, on a tout retranscrit dans la bulle pour ce mercredi 12 juin. En fait, vous aurez une ambiance Snowzelen. La bulle s'y prête, on peut tamiser au niveau des lumières. En plus, ils sont trop chauds parce qu'ils vont arriver tous déguisés. Ils ont le droit de mettre leur robe de princesse, leur chapeau, leur fausse moustache. Ils arrivent avec des peluches qu'ils partagent avec le public. Vraiment, non, j'ai hâte d'y être.
Et une édition uniquement à ce concert ou plusieurs?
En fait, vous avez une édition donc à 10h le mercredi 12 à la médiathèque Roland Plaisance et vous avez une autre édition à 16h à la médiathèque de Netreville.
OK.
Voilà.
Et puis ces petits concerts, on les retrouvera dans la saison prochaine.
Bien évidemment, voilà. C'est obligé. Obligé.
Eh bien,
Bah, puis si on peut mettre sa robe de princesse, moi j'y vais.
On t'attend, j'y sais vraiment.
Non, mais ça fait partie des trucs. Mais c'est important aussi. Je fais le parallèle. Quand nous adultes, on va à un spectacle, on peut aussi, en fonction du spectacle, de l'endroit, on se sape aussi. Enfin, ça fait partie du truc, quoi. C'est on se met dans toutes les conditions. Bah, chez les enfants, c'est mettre sa robe de princesse ou son costume de pirate. C'est aller faire la fête aussi, quoi. Ouais,
exactement.
Merci Magali Lecomte pour ce rendez-vous qu'on notera dans les agendas, hein, bien évidemment, sur ce mois de juin.
On fait la passation d'une ambiance à l'autre avec un morceau. Magali, vous nous aviez parlé de Annie Cooney.
Évidemment, la fameuse prière amérindienne.
Ça fait partie des classiques des comptines. Quand on a vu passer le titre, on a dit « Oh bah ça, on l'a entendu plein de fois. Hein. » C'est aussi bien Caro que Nathalie et moi-même d'ailleurs. On a dit « Ah, le fameux Annie Cooney, c'est ça ?»
Obligé,
absolument.
Voilà. Alors là, on vous en propose une autre version, c'est un extrait et une autre façon de découvrir Annie Cooney. Voilà, c'était le fameux Annie Cooney. On a décidé d'en faire une version remixée, parce que vous la connaissez toute, la comptine, et puis on voulait mettre un petit peu de patate dans tout ça. C'était Polo et Pan qui ont proposé cette version.
Et maintenant, nous avons la chance d'être en communication téléphonique avec Nicolas Petitsoff de la 114e compagnie pour son spectacle à venir, Comment avouer son amour quand on ne sait pas le mot pour le dire. Bonjour.
Bonjour.
Eh bien.
Eh ben oui, donc voilà, juste pour démarrer, en fait, c'est 114 compagnies. J'explique un tout petit peu pourquoi c'est pas 114e, parce que 114, c'est 11 avril. Et que notre compagnie, c'est une histoire de famille, et que le 11 avril, en fait, c'est la date de naissance de la fille de mon collaborateur, qui est Denis Malard.
Voilà. D'accord. Eh ben super. Du coup, on reste un petit peu dans la famille, puisque votre spectacle, qui va bientôt venir au théâtre Le Gendre, est aussi une histoire avec Denis Malard et puis tout votre entourage proche, si je ne m'abuse.
Ouais, c'est ça, en fait, c'est vrai qu'on a l'habitude, du coup, nous, de travailler un peu en famille. Donc, dans la distribution de ce projet, il y a Emmanuel Hiron, au plateau, qui est une amie de 25 ans, une comédienne sublime. On se connaît depuis qu'on a fait l'école ensemble, il y a 25 ans. Il y a Leslie Bernard, du collectif Bajour, qui est aussi une comédienne que je suis depuis maintenant plus de 10 ans. On porte effectivement la compagnie avec Denis Malard, qui est aussi à la régie générale et à la réalisation du spectacle. Et entre autres avec nous, il y a Baptiste, Michel à la lumière et encore plein d'autres, enfin toute l'équipe qu'il faut pour constituer un spectacle. Mais c'est vrai que c'est une histoire de famille, qu'on travaille ensemble depuis longtemps et que du coup on essaye ensemble de développer un discours depuis maintenant quelques années, depuis la création de Parpaing en fait, depuis le début de la trilogie des monstres.
Voilà, c'est ça. Et c'était un peu une de mes questions, puisque l'année dernière on a accueilli Parpaing, qui ouais. était un spectacle autobiographique sur votre adoption et sur la découverte familiale.
Bah, de nos désirs, et puis ouais, voilà, puis de qui on est, de comment est-ce qu'on se présente au monde, ouais, exactement.
Vous étiez seul en scène avec un musicien, et du oui. coup, pour ce nouveau spectacle, vous êtes plusieurs, et vous faites apparaître sur le plateau plusieurs personnages, plusieurs comédiens. Est-ce que c'est toujours dans une veine autobiographique, ou au contraire, est-ce que c'est les histoires singulières de chacun?
Sur la trilogie des monstres, le fil rouge, donc la trilogie qui a commencé par Parpaing, le deuxième volet c'est Comment avouer son amour quand on ne sait pas le mot pour le dire, le troisième volet sera créé à l'hiver 2026 et ça s'appellera Je mérite de changer de gouffre. Ça sera un spectacle sur la colère. Et en fait, cette trilogie est teintée quand même de mon histoire personnelle. Donc tout est très autobiographique, sauf que là, effectivement, sur Comment avouer, on a tricoté un spectacle avec 6 personnages, 3 en vidéo et 3 sur scène. Et les 3 personnages sur scène qui racontent leurs histoires d'amour, leurs déboires amoureux, leurs espoirs, leurs souffrances, enfin... l'amour, en fait, comme tout le monde le vit, sont emprunts quand même de mon histoire. Sauf qu'il y a 2 personnages féminins, et donc pour ces 2 personnages-là, ça a quand même été un travail de collectage, un travail d'échange. Donc c'est emprunt de mon histoire, mais c'est aussi coloré par l'intervention des personnes concernées avec qui j'ai eu des conversations et des échanges. Par exemple, le personnage de Leslie, qui s'appelle Les, est très emprunté à l'histoire personnelle de ma belle-sœur, par exemple.
Justement, Nicolas Petitsoff, quand on part d'histoires vécues, personnelles, qu'on part de l'intime, ouais. Comment on arrive à, sur le plateau, faire quelque chose qui va nous parler à tous, finalement? Ça a été la magie qui a été opérée, notamment avec Parpaing, sur ouais. le premier volet, ou comment d'une histoire personnelle, finalement, ça parle à tout le monde. Là, ouais. comment est-ce que, avec ce deuxième opus, comment on procède quand on veut parler à tout le monde avec des histoires personnelles?
Le procédé, je le connais pas, si ce n'est celui de la sincérité. C'est-à-dire que moi, j'ai pas une technique d'écriture pour faire mouche, en fait. C'est pas l'idée. L'idée, c'est de partir de l'intime, d'être le plus sincère possible, et on se rend compte que souvent, dans les histoires les plus minuscules, c'est-à-dire dans nos intimités, quand on commence à les partager, quand la parole commence à se libérer, on se rend compte très très vite, en fait, qu'on n'est pas seul à vivre ces sensations, ces émotions, ce qui nous paraît insurmontable ou ce qui nous paraît être des murs de solitude. Finalement, c'est très facile de le partager. Parfois, il suffit simplement de le dire pour se rendre compte, quoi. C'est-à-dire que l'universalité, elle vient de l'échange, je crois d'abord. Mais nous, en tous les cas, dans notre geste, dans notre acte de travail, on a justement cherché à faire le plus petit possible et le moins spectaculaire, parce que du coup, c'est comme ça qu'on arrive à rentrer dans un échange, les yeux dans les yeux, en fait, avec les spectateurs riches. C'est de là que se crée l'intime et le solidaire.
Oui, on l'avait clairement vécu et éprouvé l'année dernière lors de Parpin. Ouais. Et ce qui était hyper fort, moi, j'avais trouvé, c'est que les gens, après le spectacle, ne partaient pas et avaient ouais. beaucoup envie d'échanger avec vous. Ils sont même revenus après. Ouais. Et du coup, moi, je voulais interroger la forme scénique, puisque l'année dernière, Parpin était dans une forme plutôt classique, vous sur la scène avec le musicien, les spectateurs dans la salle. Et cette année, ben, on change la donne, puisque vous invitez certains spectateurs à aller sur scène et Exactement. À d'autres être positionnés dans la salle. Donc, je voudrais que vous nous en parliez un petit peu, si c'est possible.
Ouais, bien sûr. En fait, l'idée, c'est que Parpin, c'est une aventure vraiment vivifiante et extraordinaire et en termes d'émotions vécues assez folle et de partage avec le public, c'est assez dingue ce qui se passe autour de ce projet et on en profite et on le goûte avec plaisir. Mais moi, j'ai quand même une minuscule frustration sur ce spectacle, c'est que finalement dans cette adresse très franche et très directe avec le public, il me manque une chose quand je suis au plateau sur Parpin, c'est les yeux des gens, c'est le regard des gens. Et donc là, on a essayé de pousser un petit peu cette idée d'adresse très directe, très franche et très frontale en se mélangeant au public. C'est-à-dire que même la régie, en fait, elle est un peu descendue dans la salle. Parce que l'idée, c'est que les spectateuristes ne sont pas au spectacle, mais le spectacle est au milieu des spectateuristes. En fait, on essaye de redonner ces lettres de popularité avec que des majuscules à chacune des lettres à cet art. Donc, on invite effectivement une quinzaine de personnes au plateau, parce que ce qu'on essaie de créer comme ambiance et comme postulat scénographique, c'est un cercle de parole. C'est un peu comme les alcooliques anonymes, mais là, ça serait les amoureux anonymes. Donc, on a une vingtaine de chaises, je crois, sur le plateau. Certaines servent au jeu. Les autres sont investies par des personnes du public. La valeur de ces spectateurs-là est la même que ceux et celles qu'il y a dans la salle, vu que dans la salle, on n'éteint quasiment jamais la lumière non plus. Donc, c'est vraiment un rapport de théâtre où on est yeux dans les yeux, où il y a trois personnages qui se lèvent et qui racontent leur parcours amoureux en complicité et avec toute la bienveillance des gens qui les écoutent, quoi. Donc, c'est un petit peu cette forme-là qu'on essaye de proposer. Il y a juste un élément très intrusif qui est une caméra et qui vient de temps en temps filmer en très gros plan les comédiens et les comédiennes qui jouent pour aller chercher justement l'impudeur, pour aller chercher la toute petite chose, la petite larme, la narine qui frissonne, la lèvre qui tremble. Voilà, c'est un peu ça qu'on cherche à proposer comme rapport.
Ok, ça veut dire que les spectateurs qui sont au milieu des comédiens, eux ne sont pas filmés, mais par contre suivent le comédien d'encore plus près que de la place de laquelle ils occupent sur un grand écran.
Ouais, c'est ça. Je crois vraiment que alors après, il y a quand même des écrans de rattrapage sur les côtés pour les spectateurs qui sont au plateau pour que personne ne loupe rien de ce qui se passe. En tous les cas, les retours qu'on en a jusqu'à présent et les témoignages qu'on en a, c'est que l'expérience au plateau, elle est quand même un petit peu particulière parce qu'on est vraiment assis à côté les uns des autres et que, quand on tombe dans le regard de quelqu'un, il se passe des choses dans l'émotion, il se passe des choses dans l'échange. on se dit des trucs, en fait, comme si on se connaissait depuis toujours. Et c'est vrai que pour nous, en tant que comédiens sur le plateau, ça a été un vrai travail, un vrai exercice de se risquer à cette proximité. Mais en fait, elle est vraiment jouissive et elle est vraiment porteuse, au final. Et c'est vrai que quand le spectacle se termine, c'est un spectacle qui n'a pas vraiment début, qui n'a pas vraiment de fin. Les gens rentrent dans la salle, il y a déjà de la musique très forte, c'est une fête. Et puis il y a un salut vite fait où on remercie tout le monde et puis la musique repart. Et c'est vrai qu'on a un peu l'impression d'avoir passé un moment entre potes à la fin, quoi.
ce que j'entends, moi, dans ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une mise en exergue de l'émotion, en fait, aussi bien pour les comédiens que pour les spectateurs qui seront sur le plateau. Et j'imagine, du coup, pour les spectateurs en scène, c'est aller chercher à se remuer, en fait, aussi bien pour vous, finalement, que pour les spectateurs.
Ouais. Oui, c'est ça. Nous, vraiment, dans notre recherche, pour l'instant, en tous les cas, ce qu'on a essayé de faire avec ces deux premiers projets, c'est essayer d'abolir cette idée du quatrième mur, de rentrer dans un rapport de confidence, théâtralisé, hein, bien évidemment. On n'est pas là pour faire de la psychanalyse. Moi, ma psychanalyse, je la fais, mais ailleurs. pas sur un plateau, en tous les cas. Et donc, c'est vrai qu'on cherche un petit peu ce rapport-là d'intime, de confidence, de proximité. Après, alors pour l'instant, des témoignages qu'on en a, puisque nous, on n'est pas spectateuriste de notre projet, évidemment, mais les témoignages qu'on en a, c'est que vraiment la place, oui, effectivement, on est un peu à vue du reste du public, mais le reste du public est aussi à vue du plateau. Comme je le disais, on n'éteint pas la lumière. Donc en fait, il n'y a pas vrai. Je crois qu'on oublie vite qu'on est sur le plateau, et j'ai quand même la sensation qu'il se vit quelque chose d'un tout petit peu différent. D'ailleurs, on a des spectateurs qui sont venus plusieurs fois voir le projet pour vivre exprès les deux expériences. Mmh. Effectivement, les deux expériences sont différentes. Mais moi, j'ai l'impression que quelle que soit notre place au théâtre, si on est à court, à jardin, au milieu, au premier rang ou au dixième, les expériences vécues, de toute façon, ne sont pas les mêmes. Donc là, on propose juste un prisme supplémentaire qui est celui du plateau.
Mmh. Oui, je pensais vraiment à la place du spectateur, pour le coup, qui est complètement chamboulé, même quand on pousse la porte d'un théâtre en se disant, bah, je vais être en salle, et puis, je peux me protéger aussi par le noir, la lumière, quand l'émotion est trop forte, ou quand j'en ai besoin. C'est aussi quand même, des fois une alcôve intéressante. Et là, c'est quand même sur la notion d'un sujet très intime, qui est l'amour, de le poser à la lumière et au regard de tous, avec l'envie de quand même d'être entre amis. C'est quand même un sacré enjeu d'être entre amis dans une salle de spectacle au début quand on se connaît pas du tout. Quel enjeu !
C'est un sacré enjeu, je ne sais pas dire, ça nous fait frémir à chaque début de spectacle. Mais en même temps, ça va complètement dans le sens du propos. Mmh. C'est-à-dire que, comme je suis l'auteur de ce projet, les histoires d'amour qu'on traverse et qu'on raconte sont des histoires d'amour d'orientation plutôt homosexuelle. Moi, je cherche vraiment l'universalisme dans cette idée d'état amoureux. C'est-à-dire que justement, ce qu'on cherche à se dire, c'est de regarder droit dans les yeux, regarder son voisin d'à côté et pouvoir se dire, sans déconner, quand on se fait larguer, c'est pas les mêmes larmes qui coulent, en fait. Est-ce qu'on n'aime pas tous et toutes de la même façon, quelle que soit la personne qu'on aime? C'est un petit peu ça qu'on cherche à faire. Mmh. Moi, mon rêve, mon petit fantasme autour de ce projet, c'est que la catharsis s'inverse un peu. Mmh. Moi, en tant que personne homosexuelle, j'ai dû bien me reconnaître dans des Roméo et Juliette, dans des Hamlet et Ophélie, et d'autres. Et ben là, j'aimerais que les gens puissent se reconnaître dans l'histoire de Les et Muriel, ou dans l'histoire de Nico et Marin. En fait, qu'on parle simplement d'amour. Et je crois que pour ça, on a besoin, à un moment, d'avoir la possibilité de se regarder dans les yeux pour se dire « Ouais, c'est vrai, en fait. Mmh. En fait, ça va. On n'a plus besoin de mettre d'adjectif derrière le verbe aimer, en fait. L'amour, c'est l'amour. Point. » Donc, je crois aussi que cette espèce de volonté de faire en sorte que les gens se voient, en fait, une espèce de mise à nu, plus de regarder, collective, pour juste réussir à tomber d'accord.
Ouais,
et c'est un peu cette idée.
Et peut-être de s'y reconnaître, de s'y retrouver plus facilement, ou d'admettre qu'on s'y reconnaît peut-être davantage.
Ben oui, alors après, je ne vais pas trop vendre le spectacle.
Non, pas d'accord. On ne va pas plus loin alors.
J'espère que, que les auditeurs vont venir le voir, mais c'est vrai qu'un des plus gros compliments qu'on a eu, c'était lors d'un filage qu'on avait fait avant la première. Deux messieurs qui sont venus me voir, je dirais 60-65 ans, et très émus par ce qu'ils avaient vu. C'était des messieurs qui s'étaient mis au plateau, et donc ils viennent me voir et qui me disent « Oh là là, Nicolas, c'est très très beau, on s'est reconnu à tel et tel endroit, je ne sais pas lesquels. » Et puis je dis « Mais c'est magnifique, c'est trop mignon, vous êtes ensemble depuis combien de temps ?» Et ces deux messieurs me regardent. Et ils me disent, ah non, mais pas du tout, on n'est pas ensemble, en fait, nos femmes sont là-bas, elles nous attendent, elles ont pas osé monter au plateau, mais, et là, je me suis dit, putain, c'est cool, quoi, en fait. C'est-à-dire que ces messieurs-là, qui sont mariés depuis un certain temps, se sont reconnus dans nos histoires. Et moi, j'étais ravi de ça. On était tombés d'accord pour te dire qu'on aime tous et toutes de la même façon.
Belle victoire.
Très juste. Ouais.
Très juste. C'était beau, franchement. J'en ai eu, enfin, j'ai pleuré, hein, parce que, voilà. Je pleure beaucoup.
Eh bien, on vous retrouve donc sur ce deuxième opus avec ouais. Comment avouer son amour quand on ne sait pas le mot pour le dire. Samedi prochain, le 15 juin, à 17h au Théâtre Le Gendre. Exactement.
Voilà.
Je ne saurais que rajouter, c'est à ne pas manquer, mais ça c'est mon avis personnel.
Et moi, ce que je peux rajouter aussi, c'est qu'il reste encore des places au plateau en tant que spectateur. Et comme vous organisez une séance photo le lendemain, dimanche après-midi, de 14h à 16h, il nous reste encore de la place pour les auditeurs et spectateurs qui le souhaiteraient pour s'inscrire à cette séance photo.
Alors, du coup, en deux mots, cette séance photo, quel est son contour ?
Alors en fait, c'est simplement que on a besoin d'avoir du visuel pour promouvoir notre spectacle. Notamment, on part à Avignon au mois de juillet et que la presse va nous demander des clichés. Et que comme c'est un spectacle qui se passe par l'échange et par la proximité, pour moi, ça n'a pas de sens de faire des photos avec juste les trois comédiens et comédiennes au plateau et que ce soit vide autour. Donc on espère qu'il y a des personnes qui auront la gentillesse de bien vouloir nous prêter leur silhouette pour que sur les photos on sente qu'il y a du monde autour de nous, que c'est voilà, que c'est un cercle de parole, que c'est
un pas cercle d'amour
en solitude, un cercle d'amour, exactement.
Merci beaucoup à vous, Nicolas Petitsoff. Pardon, parce qu'on a prévu la pause musicale qui suit notre échange. Bronski Beat, bien entendu, avec Small Town Boy. Peut-être un mot là sur ce choix musical.
Ah bah oui, bah ce choix musical tout simplement parce que l'histoire que raconte cette chanson, c'est un petit peu l'histoire qu'on raconte au plateau, c'est l'histoire de ce jeune homo dans un petit village de province. En fait, c'est mon histoire, sauf que lui c'était en Angleterre et moi c'était à Limoges. Mais voilà, c'est l'histoire d'un pédé de province qui se fait harceler et qui se barre pour essayer de vivre son amour. Et c'est un morceau, vous entendrez, qui traverse le spectacle, qui a été décomposé, recomposé. Et j'ajoute pour finir qu'en plus, là, on fête les 40 ans de cette chanson, en ce moment même là. C'était la semaine dernière, je crois.
D'accord. Bon, on va vraiment vous laisser cette fois-ci, Nicolas Petit. C'est toujours le truc quand vous passez chez nous, on a envie de vous garder longtemps.
Moi, ça me va.
Mais on l'a bien compris. Et nous aussi, mais bon, on va tenir à avancer. On va se quitter pour mieux se retrouver samedi 15 juin à 17h au Théâtre Le Gendre. Merci beaucoup d'avoir échangé avec nous. Et donc, on se quitte avec Bronski Beat, Small Town Boy.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir. We'll be right back.
Timmy Somerville dans le projet Bronski Beat Small Town Boy. Et c'était un morceau qui a 40 ans, ce que nous a rappelé Nicolas Petitzoff il y a quelques instants. Et ça nous amène à l'agenda non exhaustif de ce mois de juin. Qui veut se lancer? Voilà, qui commence?
Bon, bah moi.
Parce qu'on était prêts jusque-là, mais là, c'est du freestyle.
Oui, moi, je voulais juste mentionner le Biche Festival qui va bientôt arriver. Hein. Ça aura lieu aussi les 14 et 15 juin prochains. Et il y aura, entre autres, Poppy Fusée, Thomasy, Dieter. Dieter qu'on va recevoir au Cube aussi le 4 octobre prochain.
Nathalie.
Oui, moi j'étais dans les expositions un peu photo, à l'exposition à Gisacum de Fred Grimaud sur les athlètes d'Olympie et d'aujourd'hui. Frédéric Grimaud, que nous connaissons.
Bien entendu, il a sa chaise à son nom ici.
Voilà, sur nos ondes. Expose des portraits de postures d'athlètes, parce qu'on est quand même sur la vision olympique, hein, quand même, les JO commencent en juillet. Et intéressant sur ce site archéologique de pouvoir mêler des corps, des prises de vue d'athlètes d'aujourd'hui et d'Olympie, mais avec toujours des athlètes d'aujourd'hui. Voilà, c'est un peu le concept.
Si on reste dans l'image, il y a le Tattoo Art Show qui va se dérouler ce week-end. Joannette qui fait « Ah ouais !» C'était le moment ou jamais de te refaire tatouer le... Voilà, c'est ça. Ce week-end sur Évreux. Alors, je continue le 15, parce que le 15, c'est les 10 ans de la salle de Jean-Pierre Bacry à Conchonouche, qui propose pour ses 10 ans un anniversaire avec une programmation gratuite sur toute la journée, visite décalée par une compagnie havraise, j'ai plus le nom, de la salle, présentation d'un Molière contemporain par une compagnie de théâtre de rue, des concerts sont également proposés, en fait tout un programme riche sur la salle Jean-Pierre Bacry de Conchonouche qui fête ses 10 ans le samedi 15.
Samedi 15, on a Nicolas Petitsoff, mais on a aussi au Cirque Théâtre d'Elbeuf, spectacle sous chapiteau extérieur, là sur l'esplanade, avec, ça y est, le titre, je crois que c'est Sacré Feu Follet, présenté samedi et dimanche au Cirque Théâtre d'Elbeuf.
Qui présente sa saison ce soir, où vous pouvez encore vous y rendre. Alors moi, ça sonne à la porte ce week-end quand même, qu'on ne peut pas absolument pas rater. Ça, c'est une magnifique programmation ce samedi et ce dimanche. C'est gratuit, donc allez-y en famille, parce que c'est conçu pour.
Et il va faire beau.
En plus, trop de la chance.
On va s'arrêter là, peut-être sur les petits agendas. Après, c'est pas qu'il y avait mis la photo Urbex au Moulin d'Amour?
Oui, mais ça, on a plus de temps. Là, on a déjà, si vous avez noté toutes les manifestations pour vos agendas ce week-end et le week-end prochain, c'est déjà pas mal.
C'est ça, parce que ça se bouscule et il y en a pour à peu près tous les jours. La saison est repartie. Ça nous amène à la fin de cette émission avec un extrait de film. Nathalie, ce mois-ci, tu nous as proposé 15 films, t'es revenu en arrière, en avant, t'as changé jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, sur quoi t'es-tu arrêtée?
Je me suis arrêtée, j'ai eu un peu de mal, mais au départ, je voulais un film, mais bon, ça passait pas d'un point de vue de la radio, et puis je voulais trouver quelque chose d'une niche, parce que la programmation là sur les mois était pas folichon, et je suis tombée sur Gloria de Margherita Vicario, qui est une réalisatrice italienne, donc c'est un film en italien, et là elle nous plonge dans Venise au XVIIIe siècle, où dans un institut, un orphelinat pour jeunes filles, et où là, elles sont un peu... il va se passer enfin quelque chose dans leur orphelinat avec la venue du pape. Mais elles ont l'idée, c'est les femmes qui ont l'idée d'organiser un grand concert qui sera donné en son honneur. Et là, c'est un peu tous les personnages féminins qui vont contribuer à un concert atypique, se dévoiler, se découvrir... tant au niveau des jeunes filles qui sont accueillies dans cet orphelinat, mais que des servantes aussi. On a vraiment toutes les strates de la société vénitienne de l'époque, mais aussi de l'émancipation des femmes à travers un projet commun, solidaire, autour de la musique. C'est choral, extrêmement bien filmé. C'est une petite pépite, je pense, à découvrir dès le 12 juin dans les cinémas qui pourront le diffuser.
Eh bien, nous serons à l'affût. On se quitte sur la bande-annonce de ce film. Nous, on vous donne rendez-vous le 5 juillet prochain, qui sera notre conclusion de saison. Voilà, on vous laisse avec Gloria, la bande-annonce.
Ho tutto scritto, ragazze. Andiamo via di qui. A nessuno frega niente delle orfane del Sant'Ignazio.
Silenzio, gallina.
Non so perché sia qui sotto questo pianoforte, ma... è la nostra occasione.
Voglio organizzare un concerto in onore di Papa Pio VII.
Composto dal sottoscritto ed eseguito da voi.
Zitte!
Che stai facendo?
Cosa ci fa lei lì?
Sembra divertente.
Sono giochi. Ci stanno solo facendo perdere tempo. Faremo un nostro concerto.
Credi davvero di essere all'altezza della situazione?
Fuori di qui nessuno vorrà ascoltare la tua musica. Tu non servi a niente, a nessuno.
Ho bisogno di sapere che tu ci sei.
Ricorda. I dispari vanno sempre d'accordo.